Nous désirons poursuivre avec le secours du Seigneur la considération de ce livre de Job que nous avons ouvert hier soir. Et reprenons la lecture à la fin du second chapitre. À partir du 11e verset. Et trois amis de Job apprirent tout ce mal qui lui était arrivé et vinrent chacun de son lieu, Eliphaz le Thémanite, et Bildad le Sukkite, et Tsophar le Naamathite, et ils s'entendirent ensemble pour venir le plaindre et le consoler. Et ils levèrent les yeux de loin, et ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent leurs voix et pleurèrent, et ils déchirèrent chacun sa robe, et répandirent de la poussière sur leur tête en la jetant vers les cieux. Et ils s'assirent avec lui à terre 7 jours et 7 nuits, et nul ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était très grande. Nous avons considéré hier soir brièvement les deux premiers chapitres de ce livre qui revêt un caractère particulier, vu qu'il nous entretient des voies de Dieu tout au long de ces 42 chapitres, à l'égard d'un seul homme, Job, qui a vécu dans des temps très reculés, on pense au temps des patriarches, un homme remarquable en raison de sa crainte de Dieu, sa droiture, sa perfection pratique, à tel point qu'il faisait l'admiration du ciel, de sorte que l'Éternel lui-même, lorsque Satan se présente devant lui, s'introduisant au milieu des fils de Dieu, des anges probablement, peut entendre cette déclaration de la part de Dieu, « As-tu vu mon serviteur Job ? » Il n'a pas son semblable sur la terre. Et nous avons vu que Dieu autorise Satan à porter la main sur les biens de Job, puis sur lui-même, Satan cherchant à conduire Job à chuter jusqu'au point de maudire Dieu. « Tu verras, dit-il, si, lui retirant les bénédictions dont tu l'as comblé, il ne te maudit pas en face. » Et nous avons pu constater que, au cours de ces diverses épreuves successives et combien tragiques, par deux fois, il nous est dit que Job n'a pas péché de ses lèvres, qu'il n'a prononcé aucune parole inconvenante à l'égard de Dieu, de telle manière que l'ennemi est défait. Après avoir subi successivement de nombreuses épreuves, dont 4 sont mentionnées dans le chapitre 1er, et les 3 suivantes dans le 2e chapitre, soit une plénitude d'épreuves, après avoir été dépouillé de tous ses biens, après avoir perdu tous ses enfants, ses 10 enfants, après avoir été touché dans son corps par un ulcère malin de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, Job demeure ferme dans sa perfection pratique, ce que lui reproche même sa femme, qui l'incite à maudire Dieu avant de mourir. Nous en sommes restés là et avons pu constater que l'ennemi est donc totalement défait. Mais l'inique ne connaît pas la honte, raison pour laquelle, après sa première défaite à la fin du chapitre 1er, il n'a pas craint de se présenter une seconde fois, cherchant à nouveau à faire chuter Job. Nous sommes parvenus au dernier paragraphe de ce premier chapitre, qui place devant nous l'arrivée des amis de Job, ces 3 amis qui viennent pour le consoler. Nous aimerions encore souligner un fait important qui peut-être a été omis hier soir, à savoir que Job ignorait l'entretien duquel il était l'objet dans une scène céleste entre l'Éternel d'une part et Satan d'autre part. Job ne le savait pas. Ce n'est du reste pas un cas unique. Nous avons quelque chose de semblable dans une scène qui a été évoquée hier, à savoir dans le livre des Nombres, lorsque Balak et Balaam sont sur la montagne pour implorer la malédiction de Dieu sur le peuple d'Israël dans le désert, alors que Dieu se plaît à le bénir. Israël ne le savait pas. Dans une scène combien différente en bénédiction alors, les disciples ne savaient pas la nature de la prière du Seigneur en Jean 17, cet entretien entre le Seigneur et son Père, prière, entretien duquel les disciples n'ont pas connaissance. Dans ces derniers versets, la fin de ce chapitre second, arrivent donc trois amis. Et nous pouvons penser qu'un certain temps s'est écoulé entre ce dont a été frappé Job dans ses épreuves et la venue de ses amis, en raison de la distance d'une part et des moyens de communication d'alors, mais ces trois hommes viennent pour le plaindre et pour le consoler. À la lecture des paroles que ces hommes vont prononcer à l'égard de Job, nous pourrions avoir un jugement sévère à l'égard de ces prétendus consolateurs. Mais nous devons néanmoins noter les dispositions, les intentions combien heureuses qui animaient ces trois hommes qui accomplissent ce long voyage pour venir se trouver là aux côtés d'un ami souffrant. Être près de ceux qui souffrent, c'est déjà quelque chose. Ils sont venus là et lorsqu'ils s'approchent et le voient, ils ne le reconnaissent pas, tant qu'il était marqué par la souffrance, tant son visage était d'effet changé. Ils ne le reconnaissent pas, à tel point que saisis dans leurs affections pour Job, ils élèvent la voix et pleurent, répandant de la poussière sur leur tête et la jetant vers les cieux, prenant place à côté de lui, en déchirant leur robe. Qui pourrait parler d'insensibilité dans le cœur de ces trois hommes? En avons-nous dans une telle mesure à l'égard de ceux qui sont dans la souffrance? Accomplir un long chemin, être saisi dans ses affections, témoigner la souffrance morale de cœur, en constatant l'intensité de la souffrance qui laisse même muet. Ces hommes sont restés là, tous trois, 7 jours et 7 nuits, sans prononcer une parole. Nous sommes parfois exposés à spontanément prononcer des appréciations, voire des jugements sévères à l'égard d'autrui. Mais si l'on considère d'un peu plus près les conditions, qu'il s'agisse de Job lui-même, la nature, la mesure des révélations qui lui étaient faites et l'extraordinaire compréhension qu'il avait néanmoins de beaucoup de choses. Il n'avait ni la parole, ni la loi, ni les prophètes. Si l'on pense à sa femme sur laquelle nous sommes exposés à prononcer un jugement très sévère, ce que Dieu n'a pas fait, tenant compte de la souffrance dans laquelle elle se trouvait, ayant elle aussi perdu 10 enfants tragiquement, si l'on pense à ces trois hommes qui gardent le silence tant qu'ils étaient émus en voyant la souffrance de Job. Ils restent là comme l'avait fait Ézéchiel dans le premier chapitre de son livre. Ils restent là muets et tombent sur leur face. Après 7 jours de silence, c'est Job qui rompt le silence, qui parle le premier. Après cela, Job nous a-t-il dit, ouvrit sa bouche et maudit son jour. Réaction humaine. Réaction combien compréhensible. Si nous lisons un peu plus loin au chapitre 3, nous entendons ce qui monte si souvent dans nos cœurs dans l'épreuve, les pourquoi. Pourquoi? 4 pourquoi jalonnent ce troisième chapitre au verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort? Dès la matrice, n'ai-je pas expiré quand je sortis du ventre? Pourquoi les genoux m'ont-ils rencontré? Pourquoi les mamelles pour les têter? Verset 20. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux misérables et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? à ceux qui attendent la mort. Elle n'est pas là, qui la cherchent plus que des trésors cachés, qui se réjouissent jusqu'au transport et sont dans l'allégresse parce qu'ils ont trouvé le sépulcre. La souffrance peut conduire d'une part à ces pourquoi. Et comme quelqu'un l'a dit, sur la terre, nous sommes dans la terre des pourquoi, dans l'attente d'être dans le ciel des parce que. Pourquoi, 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 pourquoi encore? Que de pourquoi? Ces interrogations, cette perplexité dans la souffrance, qui fait ardemment souhaiter n'être pas né et souhaiter entrer dans le sépulcre. Les trois amis sont là, auditeurs de ces premières paroles de Job, de ces quatre pourquoi. Tour à tour, ils vont s'exprimer et leurs discours seront entrecoupés par les réponses de Job. Nous n'entrerons pas dans ces différents passages qui occupent de nombreux chapitres, nous soulignerons simplement qu'Eliphaz, qui peut-être était l'aîné puisqu'il parle le premier, parle sous le caractère de l'expérience. C'est lui qui pourra dire plus d'une fois « j'ai vu ». Il évoque l'expérience pour en quelque sorte moraliser Job. Bildad, qui parlera le second, il parle chacun plus d'une fois, parle selon la tradition. Et en quelque sorte, il rejette Job sur lui-même, mais n'ouvre aucune porte d'espérance. Alors que le troisième, Tsophar, parle sous le caractère du légalisme. Et c'est lui qui est le plus dur. Le légalisme est très dur. Il est sans pitié, il condamne. Mais sous des formes différentes, on peut dire que ces trois hommes excitent Job au lieu de l'apaiser. Ces trois hommes le condamnent au lieu de lui parler de grâce. Ces trois hommes l'accablent au lieu de l'encourager. Et ces trois hommes le provoquent à la place de le réduire à la paix du silence. Et nous assistons pendant les chapitres où Job parle, or il parle environ 20 chapitres, 20 chapitres des 42 chapitres de ce livre, nous traduisent ou nous transcrivent les paroles de Job. Mais on voit au fur et à mesure de ces entretiens, de ces propos réciproques, lorsque les amis lui parlent, le condamnant et lui faisant comprendre, cherchant à lui faire comprendre, si Dieu te frappe, c'est que tu as commis des péchés, c'est qu'il a des raisons de le faire. Alors que Job, qui est déjà animé de propre justice, rétorque en disant, Dieu me frappe à tort et je sortirai vainqueur. Je vais démontrer et prouver ma propre justice devant Dieu. Ils sont dans des dispositions, des appréciations, qui s'oppose à la place de se rencontrer. Nous devons nous tous retirer de ces entretiens des enseignements très utiles dans le domaine pastoral. Par exemple, pour les visites. Combien nous avons besoin, en portant nos pas vers les affligés, la souffrance, de demander au Seigneur qu'il donne la parole à propos, ce qui est de nature à répondre aux besoins, à l'état des cœurs. Et les propos de ces trois hommes qui parlent à Job sont souvent intelligents. Ils ont une certaine logique, une certaine raison. Ils ne sont pas nécessairement erronés, mais ils ne répondent absolument pas à l'état du cœur, à l'état spirituel et moral de Job. De telle manière qu'au lieu qu'ils se rencontrent, ils s'écartent toujours plus. Et plus les uns l'accablent, plus Job se justifie. Ils lui parlent sévèrement, mais ils sont à côté. Totalement à côté. Et au lieu de faire du bien, Le résultat, nous le verrons, nous le savons déjà, c'est une faillite. Dans le chapitre 19, nous avons des propos, nous ne lirons que quelques passages sans nous y arrêter, mais quelques propos de Job qui traduisent ce dont il a été privé d'affection, de compréhension et la mesure dans laquelle il est isolé. Au chapitre 19, nous lisons quelques versets. Au verset 6, il dit déjà, « Sachez donc que c'est Dieu qui me renverse et qui m'entoure de son filet. » Verset 8, « Il a fermé mon chemin et je ne puis passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. » Au verset 13, « Il a éloigné de moi mes frères et ceux de ma connaissance me sont devenus entièrement étrangers. Mes proches m'ont délaissé et ceux que je connaissais m'ont oublié. » Ceux qui séjournent dans ma maison et mes servantes me tiennent pour un étranger. Je suis à leurs yeux comme un homme du dehors. J'ai appelé mon serviteur et il ne m'a pas répondu. Et ma bouche, je l'ai supplié. Mon haleine est étrangère à ma femme et ma supplication au fils du sein de ma mère. Même les petits-enfants me méprisent. Je me lève. Il parle contre moi. Notons qu'il ne parle pas de ses enfants, ils sont tous morts. Verset 19, tous les hommes de mon intimité m'ont en horreur et ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Ses frères, ses proches, les servantes, le serviteur, sa femme, les petits-enfants, tous les hommes. Abandon, incompréhension, solitude d'un homme qui nourrit la rancœur et qui nourrit des sentiments de justification, cherchant à trouver Dieu en défaut, le pressant à tort. Il peut dire encore au verset 21, « Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a atteint. » En quelque sorte, il reproche à ses amis, « Vous m'accablez, et vous faites ce qui ne revient qu'à Dieu. » Au verset 25, « Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le dernier, il sera debout sur la terre, et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu, que je verrai moi pour moi-même, et mes yeux le verront, et non un autre. Mes reins se consument dans mon sein. » Il nous semble voir ici une lueur d'espérance. Il veut rencontrer Dieu. Mais nous le pourrons le voir par la suite, son désir est de rencontrer Dieu pour se justifier devant Dieu. Il y a une lueur d'espérance. Il sait que tout n'est pas terminé sur la terre. Il parle de la fin de son corps sur la terre, mais il ne sait pas encore ce que sera la condition de celui qui rencontrera Dieu. Nous pourrons voir à la fin du chapitre 31 la manière selon laquelle il veut se présenter devant Dieu lorsqu'il peut dire « Comme un prince, je me tiendrai devant Dieu. » Quelle attitude inconsidérée, et c'est celle d'un homme intègre, c'est celle d'un homme qui craint Dieu, mais qui est animé de la jouissance, la satisfaction de lui-même, de sa propre justice. Et c'est cette cuirasse-là que la grâce veut briser. Et dans sa persévérance, Dieu y parviendra. Et si nous avons 41 chapitres, avant d'arriver à un seul verset qui est la conclusion, la finalité à laquelle Dieu se proposait de parvenir pour le bien de Job, ceci nous montre d'une part la persévérance de l'amour divin dans ses voies de grâce pour la bénédiction d'un homme, et d'autre part nous montre à quel point l'homme a une difficulté, et même l'homme qui craint Dieu, l'homme intègre, nous le répétons, combien nous avons de difficultés à être délivrés de nous-mêmes. C'est le dernier des affranchissements. Au chapitre 27, nous pourrions déjà lire un verset ou deux au chapitre 13, quelques versets qui traduisent la justification qui anime Job. Sa justification. Lorsqu'il dit déjà au verset 7 du chapitre 13, s'adressant à ses amis, « Est-ce pour Dieu que vous direz les choses iniques, et pour lui direz-vous ce qui est faux? Ferez-vous acception de sa personne? Plaidez-vous pour Dieu ?» Comme s'il disait, « Mais allez-vous vous ranger du côté de Dieu qui m'écrase ?» Au lieu de m'aider à discerner en moi ma propre justice, mes propres droits. Au verset 15, « Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui seulement, je défendrai mes voies devant lui. » Verset 18, « Voyez, j'exposerai ma juste cause, je sais que je serai justifié. » Au chapitre 27, Job, s'adressant à ses amis, peut leur dire au verset 5, « Loin de moi que je vous justifie, jusqu'à ce que j'expire, je ne lâcherai pas ma perfection. Je tiendrai ferme ma justice et je n'en ferai pas abandon. Mon cœur ne me reproche aucun de mes jours. » Au chapitre 29, Job alors évoque les jours passés où il était en honneur et s'imposait à tous. Verset 8. Les jeunes gens me voyaient et se cachaient, et les vieillards se levaient et se tenaient debout. Verset 14. Je me vêtais de la justice, elle me revêtait. Ma droiture m'était comme un manteau et un turban. J'étais moi les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres. Et j'examinais la cause de celui qui m'était inconnu, et je brisais la mâchoire de l'inique, et d'entre ses dents j'arrachais la proie. Et je disais, j'expirerai dans mon nid, et mes jours seront nombreux comme le sable. Verset 20, ma gloire restera toujours nouvelle avec moi. Mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait, on m'attendait, on attendait. On se taisait pour avoir mon conseil. Après que j'avais parlé, on ne répliquait pas, et mon discours distillait sur eux. Et on m'attendait comme la pluie, et on ouvrait la bouche comme pour la pluie de la dernière saison. Verset 25, je choisissais pour eux le chemin, et je m'asseyais à leur tête, et je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme quelqu'un qui console les affligés. Ah, le moi n'est pas mort. Si nous lisions ces quelques chapitres, nous trouverions plus de 100 fois Job évoquant quel il était. Plus de 100 fois il parle de lui. Satisfaction de soi-même. Et nous comprenons combien long est le travail divin pour qu'il en soit libéré. Nous arrivons en quelque sorte au sommet de ce monologue de Job que nous avons déjà cité au verset 37 du 31e chapitre, qui est en quelque sorte la conclusion des sentiments qui animent Job dans son égarement, où il peut dire « Je lui déclarerai le nombre de mes pas comme un prince, je m'approcherai de lui, en parlant de Dieu. Comme un prince, je m'approcherai de lui. » Nous arrivons à la fin des paroles de Job. Et ses amis qui ont parlé tour à tour, avec sévérité, mais sans grâce, doivent constater que le dialogue est sans profit. C'est ce qui est déclaré au chapitre 32, après cette mention des paroles de Job qui sont finies, et ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il était juste à ses propres yeux. Ils campent de part et d'autre sur leur position. Et on peut dire qu'ils restent dans leur disposition, Job se justifiant, ses amis l'accablant, et ils restent là, face à face, contraints au silence de chaque côté du fossé qui les sépare. Et pourtant, nous le répétons, Job était intègre, droit, craignant Dieu, et les amis étaient émus en voyant la souffrance de Job. Mais il n'y a pas de compréhension. pas de compréhension. Ne pouvons-nous pas dire que si Job s'était humilié devant Dieu à l'ouïe de ses amis, ceux qui l'accablaient auraient eu la bouche fermée? Et si ses amis avaient eu un des sentiments de grâce et de compassion à l'égard de Job, ils en auraient eu tout le profit. Ils en auraient eu eux-mêmes aussi toute la joie. Ils ont été privés, les uns et les autres, de la bénédiction qu'ils auraient pu recueillir d'une telle rencontre si longue. Nous entendrons depuis le chapitre 32 une quatrième voix. Il est frappant de constater que dans la fin du deuxième chapitre, il nous a dit qu'il y a trois amis de Job qui sont venus. Or, ils étaient quatre. Et lui n'est pas mentionné. Il se distingue des trois. Mais il était un ami, et quel ami? Plus attaché qu'un frère. Eliu intervient. Il a gardé le silence jusqu'à la fin du chapitre 31e. Il a entendu les propos des uns et des autres. Mais Eliu prend la parole. Au chapitre 32, alors s'enflamma la colère d'Eliu, fils de Barakiel, le buzite de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se justifiait lui-même plutôt que Dieu, et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient pas de réponse et qu'ils condamnaient Job. Eliu avait attendu que Job eût cessé de parler parce qu'il était plus avancé en jour que lui. Eliu vit qu'il n'y avait point de réponse dans la bouche des trois hommes et sa colère s'enflamma. Et Eliu, fils de Barakiel, le buzite, répondit et dit, « Moi, je suis jeune, et vous êtes des vieillards, c'est pourquoi je redoutais et je craignais de vous faire connaître ce que je sais. » Qu'est-ce qui caractérise Eliu? Humilité, discernement, sagesse, perception de la pensée de Dieu. Il était donc le plus jeune, et par convenance, il a gardé le silence, laissant parler les aînés. Combien cela est à son honneur. Nous n'avons pas, et pourtant, on peut dire que Eliu ne tenait plus en entendant ses propos des uns et des autres. Puisqu'il arrive à un moment où les autres se taisant, il ouvre alors la bouche pour dire que sa colère s'est enflammée. Mais il a gardé le silence, il a attendu. Convenance remarquable d'un jeune homme, d'un homme de Dieu, qui attend le moment de Dieu pour se manifester. Mais d'autre part, nous voyons que la sagesse n'est pas nécessairement du côté de l'âge et des cheveux blancs. Eliu parle. Attitude humble et convenante. Et combien il serait utile, profitable, de méditer d'une manière particulière et en détail ce long exposé de cet homme remarquable qu'était Eliu. Nous le laissons à la méditation de chacun. Mais ne pouvons-nous pas dire qu'Eliu est le vrai pasteur? C'est aussi le vrai prophète, dans le sens qu'il communique au moment de Dieu, la pensée de Dieu, selon les nécessités et l'état des cœurs. C'est là le vrai prophète. Et aujourd'hui, le prophète n'est pas celui qui nous prédit ou nous annonce des choses à venir jusqu'alors inconnues. La révélation de Dieu nous est entièrement donnée. Le prophète, comme don, et l'apôtre se plaît à l'évoquer dans le 14e chapitre de l'Épître aux Corinthiens, le prophète, c'est bien cet homme qui parle pour l'édification, pour l'enrichissement, pour l'affermissement, pour donner la réponse de Dieu aux besoins du moment. Et c'est sans doute le don qui requiert une dépendance, une clairvoyance particulière. Dieu veuille qu'il y ait des prophètes. Mais nous pouvons voir déjà dans l'histoire d'Israël, lorsque des prophètes sont suscités, d'une part, ils dénoncent l'état des faits, voire la responsabilité du peuple en raison de son mauvais état, mais en même temps, ils annoncent les ressources de Dieu. Les trois amis n'ont pas agi de la sorte, ils n'ont fait que condamner. Ils n'ont parlé que négativement. Mais ils n'ont présenté à Job aucune consolation, aucun signe de compassion et de grâce, et aucune ressource. ils l'ont accablé. Alors qu'Eliu va lui parler d'un messager, de celui qui va parler pour lui et pas seulement contre lui. Parler contre quelqu'un, c'est une chose bien lamentable. Parler avec quelqu'un est quelque chose de précieux. Parler pour quelqu'un, combien cela peut être en bénédiction. Il parle donc avec vérité, voire même avec sévérité, car il le fallait. L'état de Job, dans son ayant été confirmé même dans sa propre justice par les paroles de ses amis, nécessitait la sévérité, la fermeté, la vérité, mais aussi la grâce. La grâce, combien nécessaire, combien indispensable dans le dialogue. Élie était un prophète de jugement qui a accompli des actes extraordinaires, démontrant la puissance. Mais ce qu'il ne connaissait pas, c'était la grâce. Il n'était pas ébranlé lorsqu'il sort de la caverne devant l'Éternel, lorsqu'il est dans la montagne d'Horeb, il n'a pas été ébranlé par le vent impétueux, par les tonnerres, par le tremblement de terre. Cela était en rapport avec sa nature impétueuse. Il n'a pas bronché. Mais lorsqu'il entend la voix subtile, la voix de la grâce, il ne résiste pas. Il doit envelopper sa tête dans son manteau. N'oublions pas que le cœur est brisé par la grâce. Ses trois amis ont manqué de grâce. La grâce ne fait pas taire la vérité, mais combien l'équilibre est nécessaire. Nous savons bien qu'il n'est venu qu'en un seul homme, le parfait et divin équilibre, le Seigneur, par qui sont venus dans ce monde la grâce et la vérité. Et la grâce est mentionnée en premier. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Ce sera le langage d'Eliu. Mais il commence par s'effacer lui-même. Il pourra dire au verset 6 du chapitre 33, vois-tu, « Voici, je suis comme toi, quant à Dieu, je suis fait d'argile, moi aussi. » Et il aura pu dire au verset 12 du chapitre 32, « Je vous ai donné toute mon attention, et voici, il n'y a eu personne d'entre vous qui convainquit Job, qui répondit à ses paroles. » Afin que vous ne disiez pas, il s'adresse aux trois amis, nous avons trouvé la sagesse. Dieu le fera céder et non pas l'homme. C'est le travail de Dieu. Alors que ces trois hommes, ces trois consolateurs bien intentionnés, pleins d'affection pour Job, ne lui ont pas parlé de grâce et ont fort peu, si ce n'est même pas, parlé de Dieu. Nous lisons quelques versets seulement dans ces propos d'Eliu au verset 6e du chapitre 33. « Voici, je suis comme toi, nous venons de le lire. Quant à Dieu, je suis fait d'argile, moi aussi. » Verset 8. « Certainement, tu as dit à mes propres oreilles, et j'ai entendu le son de tes discours. Moi, je suis net, sans transgression, je suis pur, il n'y a pas d'iniquité en moi. » Voici il, Dieu lui-même. Il trouve des occasions d'iniquité contre moi, disait Job. Il me considère comme son ennemi. On voit par cela que Job n'a pas du tout compris que Dieu le serrait de près pour son bien. Il a considéré que l'Éternel le pressait, l'accablait à tort. Il n'est pas entré dans la pensée de Dieu. Et Job de dire au verset 12e, voici, je te répondrai quand cela tu n'as pas été juste, car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi contestes-tu avec lui? Car d'aucune de ses actions il ne rend compte. Car Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Alors, au verset 23, s'il y a pour lui un messager, un interprète entre mille pour montrer à l'homme ce qui pour lui est la droiture, il lui fera grâce. Et il dira, délivre-le, pour qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une propitiation Alors sa chair aura plus de fraîcheur que dans l'enfance, il reviendra au jour de sa jeunesse. Il suppliera Dieu, et Dieu l'aura pour agréable, et il verra sa face avec des chants de triomphe, et Dieu rendra à l'homme sa justice. Quelle parole remarquable dans la bouche d'Élieu. Nous devons toujours tenir compte de la mesure des révélations de Dieu lorsque ces choses se sont produites et que ces hommes ont parlé. Dieu n'avait pas révélé ses pensées comme même Israël l'a connu sous la loi, combien moins comme nous les connaissons aujourd'hui. En dépit de cette courte limite qu'ils avaient de la révélation divine, la grâce accorde à Élieu de parler à Job d'un messager, un interprète. Mais ce n'est pas dans le même sens que Job souhaitait et avait demandé par deux fois un avocat, un arbitre. Il a demandé deux fois qu'il y ait un arbitre entre Dieu et lui. Mais pourquoi? Pour que cet arbitre puisse devant Dieu justifier la cause de Job. Tandis que le messager dont il est fait mention ici, l'interprète, est pour faire comprendre à Job les pensées de Dieu. Nous voyons combien Élieu intervient d'une manière absolument différente de celle qui constituait la conception qu'avait Job. Job voulait un arbitre et lui propose un messager. Il lui propose un interprète qui puisse lui faire comprendre la pensée de Dieu. Et il lui fera grâce. Cet interprète va faire comprendre à l'homme la grâce de Dieu qu'il veut manifester à l'égard de sa créature. Et nous avons dans ces versets 23 à 26, comme sous la forme embryonnaire, dirons-nous, mais tout le propos de la rédemption. D'une manière très voilée, d'une manière qui n'est pas encore donnée à connaître. Mais nous l'avons déjà dans ses propos d'Élieu comme en germe. Il lui parle d'une propitiation. Qui est-ce qui est la propitiation pour nos péchés, si ce n'est Christ lui-même? Il peut lui dire que, au verset 25e, « Alors sa chair aura plus de fraîcheur que dans l'enfance, il reviendra au jour de sa jeunesse. » C'est presque une évocation de la nouvelle naissance en raison de la rédemption. Et il peut lui dire qu'il suppliera Dieu et Dieu l'aura pour agréable. Dieu a eu Christ pour agréable, il a agréé son œuvre, il a agréé la rédemption. Et il verra sa face avec des chants de triomphe. La joie sera la part de celui qui sera mis au bénéfice d'une telle grâce. Quel propos dans la bouche de ce compagnon Élieu, et combien ces paroles diffèrent de celles de tes trois hommes qui ont parlé précédemment. On peut dire qu'Élieu perçoit le but de Dieu. C'est le premier. Il n'en demeure pas moins qu'il avertit. Il avertit même assez sévèrement Job lorsqu'il lui dira au verset 36 du chapitre 34, déjà, il a une parole très frappante. « Je voudrais que Job fût éprouvé jusqu'au bout, parce qu'il a répondu à la manière des hommes iniques. » Et au verset 32 du chapitre 33, il dit déjà « Je désire que tu sois trouvé juste. » Mais tu ne le seras jamais par toi-même. Je ne demanderais pas mieux que tu sois juste devant Dieu, mais tu ne l'es pas. Et pour que tu arrives à comprendre les pensées de Dieu, il faut que tu sois éprouvé jusqu'au bout. C'est le vœu qu'il exprime pour le bien de Job et pour la gloire de Dieu, premièrement. « Penses-tu, dit-il au chapitre 35, à l'ouverture, penses-tu que ceci soit fondé, que tu aies dit « Je suis plus juste que Dieu » ?» Au chapitre 36, au verset 18, « Puisqu'il y a de la colère, prends garde. » qu'elle ne t'enlève par le châtiment, et une grande rançon ne te le ferait pas éviter. Au verset 21, « Prends garde à toi, ne te tourne pas vers l'iniquité, car c'est ce que tu as choisi plutôt que l'affliction. » Il lui parle de la grâce, il lui parle de la rédemption, mais il peut lui dire en même temps, si tu t'obstines dans ta propre justice, tu seras l'objet du jugement. Prends garde à toi. S'il y a colère, prends garde qu'elle ne t'enlève par le châtiment. D'une part, il parle avec sévérité, en avertissement. D'autre part, il présente les ressources de la grâce. Lorsque Élieu achèvera ses propos, il va lui parler de la création. Pour faire ressortir et conduire Job à prendre conscience de sa petitesse, de son néant, devant la grandeur d'un Dieu créateur. Et il est frappant de voir que lorsque Élieu achèvera son discours à la fin du chapitre 37e, c'est l'Éternel alors qui va parler, et en dernier, bien sûr, pour s'adresser à Job. Et durant ces chapitres 38 à 41, nous avons alors les propos de Dieu lui-même. Peut-être pouvons-nous trouver étrange que Dieu parle à Job par l'évocation de la création. Mais, d'une part, en reprenant le discours ou les paroles d'Élieu qui a terminé son exposé, ses propos, chapitre 37e, à l'intention de Job, en parlant de la création pour faire sentir à Job sa petitesse, et l'Éternel reprenant le même thème, en quelque sorte, Dieu a posé un sceau sur les propos prononcés par Élieu. Et d'autre part, on peut dire que la création est le premier domaine auquel la foi s'attache. Et c'est un domaine qui ne doit échapper à aucune créature, la création. Et l'Épître aux Romains est là pour nous dire que l'homme a la création devant lui qui rend témoignage de la grandeur, de la puissance, de la divinité de Dieu lui-même et qui par cela le rend inexcusable. Par la foi, nous dit la parole, nous comprenons, Épître aux Hébreux, nous comprenons qu'il a fait les mondes. C'est par la foi. Les savants perdent leur temps depuis des siècles pour expliquer la création, mais la foi simple d'un enfant comprend. Il n'est pas seulement dit qu'elle accepte, mais elle comprend, la foi saisit. Elle comprend qu'il a fait les mondes. C'est le premier domaine auquel la foi s'attache. Il est frappant de voir au début de ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, les différents domaines auxquels la foi s'attache. On a la création, ensuite on a le sacrifice de Christ dans la personne d'Abel, etc. Et tout un chemin que la foi poursuit. Et Dieu prend le premier domaine, puisque les révélations de Dieu étaient très limitées au temps de Job. Il lui parle donc de la création. Job avait désiré rencontrer Dieu, puisque nous l'avons lu à la fin du chapitre où il termine ses propos, il peut dire qu'il aimerait se présenter devant Dieu comme un prince. Et ne pouvons-nous pas dire qu'à partir du chapitre 38e, il est exaucé, il a Dieu devant lui. Il lui parle donc des choses visibles que l'homme peut voir de ses propres yeux humains et physiques, les choses existantes et visibles de la création. Et cela suffit d'une part pour le rendre inexcusable, et d'autre part pour le convaincre de sa petitesse à lui, et de la grandeur et de la divinité du Créateur. Que pourrions-nous dire en évoquant la grandeur des pensées de Dieu, des conseils et des voies de Dieu? Ceci, Job ne pouvait pas le percevoir. En quelque sorte, Dieu prend l'élément le plus simple, qui était à la portée de Job. Mais par la grâce de Dieu, notre foi, en raison des révélations divines desquelles nous bénéficions, nous accorde de percevoir quelque chose des pensées de Dieu, du conseil éternel de Dieu. Et si devant la création, Job a dû s'incliner, lorsque nous entrons quelque peu, si faiblement, dans la grâce que le Seigneur nous accorde de nous faire comprendre un peu ses pensées d'amour à l'égard de nous, créatures de rien, mais nous devrions tomber et nous prosterner dans l'adoration. Dieu va commencer par censurer en quelque sorte Job. Et il lui dira, nous lisons le premier verset de chapitre 38, « L'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit, Qui est celui qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance? Saint-Hérin, comme un homme, et je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Si l'on permet cette liberté d'expression, il y a presque un sens ironique. C'est comme si Dieu disait à Job, mais tu es si parfait, tu sais tant de choses, tu rétorques devant tout, mais instruis-moi. Je t'interrogerai, instruis-moi. Et nous avons une parole très très frappante au chapitre 40 et au verset 9, lorsque Dieu lui-même lui dit, « Alors moi aussi je te célébrerai parce que ta droite te sauve. » Job est rendu à néant par ses propos divins et l'Éternel va lui parler en mettant en évidence le fait qu'il était absolument absent lorsque toutes ces merveilles ont été créées. Il met Job devant son insignifiance, devant la grandeur de la création, et à tel point qu'il peut lui dire, les anges chantaient de joie lorsque ces choses ont été appelées à l'existence, et toi tu te permets de contester? Qui es-tu, Job, pour le faire? Où étais-tu quand je les ai créés? Au chapitre 39, au verset 34, nous lisons, l'Éternel répondit à Job et dit, « Celui qui conteste avec le Tout-Puissant, l'instruira-t-il? Celui qui reprend Dieu, qu'il réponde à cela. » Il est frappant de voir que l'homme plein d'instruction, c'était le cas de Job, l'homme remarquable, intelligent, plein de son savoir et duquel il jouissait, comme Job, fait de l'homme un contestataire. Qui es-tu qui conteste avec moi? Alors Job peut dire au verset 36, remarquons qu'il a gardé le silence depuis que Dieu avait pris la parole. Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis une créature de rien. Que te répliquerai-je? Je mettrai ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus, et deux fois et je n'ajouterai rien. Premier résultat, on peut dire, Job se tait, il arrête de contester. Il réalise qu'il ne peut pas soutenir le dialogue avec Dieu lui-même. Il y a deux étapes quant à la chair. La première, c'est de la faire taire, réduire la chair au silence. Et ensuite, c'est de la faire mourir. Et la première étape est arrivée. Je mettrai ma main sur ma bouche. Réduire la prétention de l'homme, de la chair, même chez un croyant, la réduire au silence. Première étape. Mais Dieu veut achever son œuvre. Il veut terminer le travail qu'il a entrepris pour la bénédiction de celui qui est si précieux à son cœur, cet homme Job. Et il va le serrer de plus près encore. Au chapitre 40, l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit, « Saint-Hérin, comme un homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Veux-tu donc anéantir mon jugement? Me démontreras-tu inique afin de te justifier? » Quelle sévérité dans ces paroles de Dieu! Est-ce que l'iniquité serait de mon côté pour que toi tu aies la gloire de te justifier comme homme devant moi? Et nous savons bien que dans les chapitres 40 et 41, Dieu reprend le thème de la création pour lui parler par le moyen de deux animaux créés. Nous savons bien probablement l'hippopotame et le crocodile, comme le dit la note, un animal de la terre et un animal des eaux, pour montrer à Job, lui faire comprendre son néant et la sagesse du Dieu créateur. À la fin des propos de Dieu, Job, qui était déjà réduit au silence, n'a plus qu'une chose à dire. Et par la grâce de Dieu qui a atteint son but dans la conscience et dans le cœur de son serviteur, il les prononce enfin. Chapitre 42. Si on nous permet un dépassement de quelques minutes, nous ne saurions conclure de telles considérations sans évoquer le but de Dieu, la fin du Seigneur, que traduit ce chapitre 42e. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je sais que tu peux tout, et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui qui, sans connaissance, voile le conseil ? J'ai donc parlé, et sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie, et je parlerai, je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » Le travail de la grâce s'accomplit. L'œuvre qu'il avait commencée, que la grâce de Dieu avait commencée, s'achève. Dépouillement. Et combien les propos de Job sont contraires à ceux qu'il avait évoqués précédemment. Il demande à Dieu de l'instruire. Alors qu'auparavant, et peu avant encore, il prétendait instruire Dieu lui-même. Il confesse, premièrement, la toute-puissance de Dieu. « Je sais que tu peux tout. » Ensuite, il peut déclarer son ignorance, son irrévérence même. « J'ai donc parlé, mais sans comprendre. » Il a voulu traiter des domaines dans lesquels il n'était pas en mesure d'entrer. « Écoute, et je parlerai. Je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. » Celui qui prétendait tout savoir réalise qu'il ne sait rien et qu'il a besoin d'être instruit de la vraie, seule et divine sagesse. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, le regard de ma conscience et de mon cœur s'est ouvert pour te discerner. Maintenant, mon œil t'a vu. Et le verset suivant, c'est pourquoi. Car il fallait en effet que Job manifeste et rejoint cet état de cœur décrit dans les premiers versets de ce chapitre 42, pour qu'il puisse prononcer les paroles du verset 6e, « C'est pourquoi j'ai horreur de moi et je me répands dans la poussière et dans la cendre. » Voilà. C'est à cela que Dieu voulait l'amener. C'est là la fin du Seigneur, qui dans ses compassions, sa miséricorde, voulait accorder à cet homme précieux à son cœur d'être libéré, affranchi de lui-même. Remarquons qu'il ne dit pas ce que nous avons déjà souligné hier, il ne dit pas « Je confesse les péchés que j'ai commis », puisqu'il était parfait et droit dans toutes ses voies, mais il dit « J'ai horreur de moi ». Et c'est ce à quoi toute créature, étrangère à la grâce de Dieu, sans relation vitale avec le Seigneur comme sauveur, doit arriver. Nous l'avons déjà cité, Pierre a pu dire, lorsqu'il voit le Seigneur, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il ne dit pas seulement « J'ai commis des péchés, je suis un homme pécheur. » C'est être d'accord avec Dieu pour prononcer la sentence sur ce que nous sommes par nature. Des hommes pécheurs, perdus. Et c'est le sentiment qui étreint celui qui est convaincu de ce qu'il est, étant placé devant ce que Dieu est. Lorsque Ésaïe entre dans le temple au chapitre 6 de son livre, il peut dire « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Malheur à moi !» Ézéchiel, dans le chapitre 1er de son livre, au verset 28e, tombe sur sa face lorsqu'il est placé devant Dieu. Même ceux qui sont venus chercher le Seigneur au jardin de la souffrance, entendant que c'était lui, sont tombés par terre. Pas dans la repentance. Mais cela nous montre à quel point l'homme s'écroule et s'efface devant les droits divins et devant les caractères divins. Malheur à moi. J'ai horreur de moi. Et lorsque le cœur de l'homme est vidé de lui-même, le Seigneur et sa grâce peuvent le remplir. Je me repens dans la poussière et dans la cendre. C'est la chair consumée dans la cendre et la repentance qui est le point de rencontre avec Dieu et le point de départ de la bénédiction. Dieu ordonne à tous les hommes qu'ils se repentent. Il n'y a pas d'autre point de départ. Pour un incrédule, pour un non-croyant, pour un indifférent, il n'y a pas d'autre seuil à franchir que celui de la repentance. Et pour un croyant qui est en chute, qui a fauté, et qui réalise la rupture de sa communion avec le Seigneur, il n'y a pas d'autre seuil à franchir que celui de la confession, de l'humiliation, pour retrouver la joie de la communion qui a été troublée, rompue. J'ai horreur de moi. Je me repens dans la poussière et dans la cendre. Qui va parler après cela? Job a tout dit. Après avoir parlé pendant 20 chapitres, inutilement, si ce n'est lorsqu'il dit qu'il mettra sa main sur sa bouche pour se taire, il n'a plus rien à ajouter. Il a tout dit ce qu'il devait dire. Et pour Dieu, cela est pleinement suffisant. Il a pris sa vraie place devant Dieu. Et Dieu n'a plus rien à ajouter. Nous n'avons pas une parole de Dieu à l'égard de Job pour continuer un travail qui maintenant est produit par sa grâce dans la conscience et dans le cœur de cet homme intègre. Nous le répétons. Nous lisons la fin de ce chapitre, souhaitant de ne pas trop prolonger, mais au verset 7, « Il arriva après que l'Éternel lui dit ses paroles à Job, que l'Éternel dit à Eliphaz et Thémanite, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux compagnons, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Et maintenant prenez pour vous 7 taureaux et 7 béliers et allez vers mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous, et mon serviteur Job priera pour vous, car lui je l'aurai pour agréable, afin que je n'agisse pas avec vous selon votre folie. » Car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Eliphaz et Thémanite, et Bildad le Sukkite, et Tsophar le Naamathite, allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut Job pour agréable. Et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job, quand il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Et tous ses frères, et toutes ses sœurs, et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent à lui, et mangèrent le pain avec lui dans sa maison. Et ils sympathisèrent avec lui et le consolèrent de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui, et lui donnèrent chacun un késita et chacun un anneau d'or. Et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement, et il eut 14 000 brebis et 6 000 chameaux, et 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses, et il eut 7 fils et 3 filles, et il appela le nom de la première Jénina, et le nom de la seconde, Ketsia, et le nom de la troisième, Keren Apuk, et dans tout le pays, il ne se trouvait point de femmes belles comme les filles de Job, et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Et après cela, Job vécut 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations, et Job mourut, vieux et rassasié de jours. La colère de Dieu s'enflamme contre ses 3 amis, pas contre les 4. Elle ne s'est pas enflammée contre Élie, mais contre les 3 amis, les 3 premiers, qui n'ont pas compris les voies de Dieu et qui n'ont pas atteint le cœur de Job. Quelle est la ressource? Un sacrifice. Face à cet égarement, il n'y a que le sacrifice qui peut être agréé. Et nous retrouvons ce que Job faisait pour ses enfants au début de ce livre, c'est-à-dire l'Holocauste, puisqu'à ce moment-là, le sacrifice pour le péché n'était pas connu. Nous le trouvons, nous le répétons pour la première fois, dans l'Exode au chapitre 29. Que dit l'Éternel? Quelle appréciation donne Dieu à l'égard des paroles de Job? Il se tait entièrement sur ses propos d'égarement pendant 20 chapitres. Pourquoi? Parce qu'il les a jugés. En disant « j'ai horreur de moi », en ayant déclaré qu'il avait parlé par incompréhension, par ignorance, et ayant posé le sceau de la condamnation sur lui-même devant Dieu, tout est effacé. Tout est réglé. Que reste-t-il? Quels sont les propos de Job qui demeurent en mémoire et que Dieu rappelle 2 fois? En s'adressant à ses consolateurs fâcheux, vous n'avez pas parlé comme il convient, comme mon serviteur Job. Ces paroles convenantes du serviteur Job que Dieu recueille comme un bien précieux, comme le résultat de son travail en lui, persévérant le travail de la grâce pour sa bénédiction, ce sont les propos des 6 premiers versets du chapitre 42. Tous les autres s'effacent. Vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. Ce sont ces belles paroles de confession. Nous disons ces belles paroles car elles sont mentionnées comme telles dans la confession prophétique de Nephtali, dans la prophétie de Jacob au chapitre 49 de la Genèse. À la place de la contestation de Job, qui a alimenté tant de chapitres, nous avons maintenant l'intercession de Job, qui prie pour ses amis. Quel changement! Il a condamné, accusé, jusqu'à quand? Ayez pitié donc de moi, voulez-vous me détruire entièrement? Il les accuse. Il avait des raisons. Mais à la place de cette disposition de contestation chez Job, ce qui fait place à un tel état d'esprit, c'est l'intercession. Il prie pour ses amis. À la place de l'accusation des accusateurs, des trois amis qui ont chargé, accablé Job, à la place de cela monte maintenant le parfum de l'Holocauste. Le parfum de l'Holocauste. Quel changement de condition! Intercession de Job, le parfum du sacrifice et la bénédiction divine. Quels sont les résultats du travail de Dieu dans les cœurs? Job est restauré. La communion est entière. Nous pourrions multiplier les exemples où nous voyons ces états bénis qui font suite à la confession. Et on peut dire qu'après la confession de l'égarement chez un croyant, de la chute chez un croyant, ou de la repentance d'un état étranger aux pensées de Dieu chez un non-converti, après on peut dire que c'est la paix du ciel qui est libérée de tous les nuages qui ont fait obstacle jusque-là. Le résultat, c'est que Satan est complètement déjoué. Il l'a été déjà dans les deux premiers assauts qui n'ont pas produit chez Satan, l'accusateur des croyants, le résultat qu'il souhaitait en ce qu'il poursuivait. Et maintenant, il peut constater une fois de plus que cet homme Job est libéré de lui-même. Satan entièrement débouté. Quant aux amis, ils ont été instruits. Ils ont été enseignés judicieusement. Quant à Job, il est affranchi de lui-même, il jouit d'une relation précieuse de son âme, de son cœur, comme il n'a jamais joui auparavant. Ce n'est plus seulement l'homme heureux sur la terre, mais c'est l'homme heureux dans la communion avec son Dieu. Et quant à Dieu, il est glorifié par le résultat du travail de sa grâce, de la persévérance de son amour, au travers d'un disciple souffrance, dans celui qui était l'objet de ses soins et de sa grâce. Ces choses étant arrivées, dit l'apôtre Pierre, ces épreuves, ces disciplines, pour que nous participions à sa sainteté. Il est béni au double, et si nous comparons ses possessions en bétail, ce qu'il avait, dont la description et les quantités nous sont données au premier chapitre, et les quantités qui sont données dans cette bénédiction finale, nous verrons que c'est exactement le double. En revanche, 10 enfants lui sont donnés, il n'est pas dit 20 enfants. Nous pourrions dire pourquoi est-ce qu'il a le double des biens dans ses troupeaux, mais il n'a pas le double des enfants. Si les enfants de Job avaient la vie de Dieu, les 10 premiers, bien qu'étant morts, il les retrouve. Il en a 10 nouveaux. L'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. Et nous pouvons bien apposer ce sceau de la déclaration divine sur un tel travail de Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne pouvons-nous pas dire que, comme ce par quoi passe le fer trempé, qui doit connaître le feu et ensuite l'eau, Job a connu le feu de l'épreuve, est l'opération de l'eau de la parole de Dieu. il est maintenant affermi dans la jouissance des bénédictions divines que la grâce lui a accordé de percevoir en étant libéré de lui-même qui constituait l'écran entre Dieu et sa jouissance. Nous connaissons cette parole du proverbe 25, « Ôte de l'argent les scories, il en sortira un vase pour l'orfèvre. » Il est libéré des scories de l'argent. Il en sort un vase à l'honneur du divin orfèvre. Et comme l'argile est dans la main du potier, ne pouvons-nous pas dire, à l'égard de Job, nous savons que la créature est comparée souvent à un vase, c'est Jérémie 18, que la grâce de Dieu se met au travail sur le tour de l'amour pour faire de cette argile un vase selon le plaisir de son cœur. Et il travaille dans son amour persévérant, et chacun a vu travailler un potier qui manie l'argile, une main en dedans et une en dehors. Il travaille dans son être intérieur et il le moule aussi par les circonstances extérieures. Et il en fera un vase comme il plaît au potier de le faire. Et Job, au travers de ce chemin d'épreuve, n'est-il pas devenu un vase à honneur utile au maître? Que de telles considérations faites, bien imparfaitement, bien incomplètement, soient de nature néanmoins par la grâce du Seigneur à nous encourager, à nous instruire et à réaliser que nous sommes tous ces vases objets de la grâce divine qui veut faire de nous et pour lui des vases utiles au maître. Nous terminons par cette expression de Romains 11 qui trouve une certaine application à tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Romains 11, verset 33. Aux profondeurs des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et lui sera rendu, car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. Amen.